pensant à lui, on a en tête ces derniers mots chantés du final de L'enfant et les sortilèges. Il est bon, l'enfant, il est sage, bien sage, si sage. Il a pansé la plaie, étanché le sang. Il est sage, il est si doux. Quelques mots de Colette, musicalisés par Maurice Ravel. Porte ouverte sur un monde de rêves et d'effroi, un monde où l'on exprime le chagrin en dansant, un monde où des musiques naïves de pipeaux et de tambourins accompagnent les destins froissés de petits personnages de papier, un monde où se mêlent les musiques d'insectes, de rainettes, de crapauds, de rires et de chouettes, de murmures, de brises et de rossignols, un monde enchanté et à la fois désenchanté, qu'enfant, notre musicien du jour avait fait sien, et qui de fait lui ressemble un peu. Les Vendredis de la musique numéro 76, Robert Wyatt, un musicien et ses sortilèges.
Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free.
Voilà, nous entrons dans le monde de Robert Wyatt par l'enfance, par ses musiques qu'il écoutait enfant. Nous y entrons aussi avec deux connaisseurs amateurs de Robert Wyatt, l'un qui est un œil d'une certaine façon, Jean-François Drian, qui est photographe, l'autre qui est un grand connaisseur du rock, qui est Philippe Thiers, qui a écrit beaucoup de livres sur ce sujet, spécialiste du rock psychédélique entre autres, et tous deux ont publié aux éditions des Accords un livre qui s'appelle Robert Wyatt et qui est suite à de longs moments passés avec lui d'entretien chez lui dans une espèce de douce intimité et qui nous permettent d'aborder ce personnage de façon avec des angles très différents. Et on va essayer cet après-midi dans les Vendredis de la musique d'entrer dans ce monde si complexe en même temps, qui a l'air simple, mais complexe, je trouve, de Robert Wyatt. Alors, Philippe Thiers, je disais qu'on était entré par l'enfance, avec cet enfant et les sortilèges qu'il écoutait beaucoup, et puis Doris Day. Est-ce qu'on peut poser déjà les jalons ?
Wyatt expliquait très simplement qu'il avait compris ce que c'était l'amour avant de ressentir les premiers émois de l'amour par la chanson de Doris Day. C'est-à-dire que déjà, tout se transmet par les chansons. Et pourtant, au départ, il s'imagine, ou ses parents au moins l'imaginent, plutôt peintre, parce qu'il aimait dessiner aussi. Très très vite, il s'aperçoit quand même que c'est la musique qui le passionne. Alors ça ne le passionne pas en tant que joueur, instrumentiste au départ. Ça le passionne pour l'écouter, essayer de faire partager finalement son plaisir qui va très vite se tourner vers le jazz. Il dit qu'il fait partie d'une des dernières générations de musiciens à avoir été formés par le jazz.
Mais si on s'arrête un tout petit peu avant d'entrer dans l'univers musical sur ce qu'ont été ses parents, sur une enfance qui a l'air en même temps, comme je trouve ça lui ressemble, parce que tout est feutré et atténué, mais quand même on découvre qu'à 15 ans il fait une tentative de suicide, qu'il part, qu'il a un côté vagabond, enfin bon, il y a quelque chose en même temps de la rupture.
L'histoire de son apprentissage musical reflète un peu ça. C'est-à-dire qu'il est toujours, il se sent toujours un petit peu en porte-à-faux. En fait, ses parents, il aime beaucoup ses parents. Sa mère est journaliste, son père psychologue, amateur de jazz, de cinéma français, entre autres. Il est très francophile, ouais. Il parle français. Bon, on aurait pu faire une partie des interviews en français. D'ailleurs, ça s'est un peu passé, même si on a fait la plupart en anglais. Et c'est des parents qui sont assez aimants, qui ont une activité intellectuelle. Il a des frères, des sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Ils étaient chacun divorcés. Et finalement, qu'est-ce qui le rend malheureux, Wyatt ? C'est se dire, je ne pourrai jamais satisfaire les désirs, finalement, qu'ont mes parents de me transformer en quelqu'un. Ils pensaient qu'il serait un intellectuel, un étudiant, ou alors un peintre. Ils ne le brimaient absolument pas, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais d'un autre côté, ils ne se sentaient pas capables de correspondre, d'être aussi fort que ses parents l'imaginaient. Et par exemple, il échouait à l'école. Il disait qu'il échouait à l'école, mais il échouait à l'école parce qu'il se sentait incapable finalement de réussir. Toujours cette espèce d'incapacité à correspondre à l'image qu'on voudrait avoir de lui. Et la musique, c'est un peu pareil, finalement, parce qu'il va se plonger dans le jazz, mais à l'époque où il va faire écouter des disques de jazz dans les surprises parties, dans les booms d'adolescents au lycée, eh bien, ça n'a pas fonctionné, parce que c'est le rock'n'roll qui compte.
Il faut dire qu'il a 66 ans aujourd'hui, hein, pour le cycle.
Il est né en 1945. Voilà, voilà. Donc, on est fin 50, là, déjà. Donc, c'est effectivement le rock'n'roll qui a pris ça, et après, c'est le blues. Parce qu'en fait, il est d'une génération de musiciens anglais qui vont être ceux un peu plus vieux, nés en 40, finalement, il a quand même 5 ans d'écart avec John Lennon. Il est 5 ans plus jeune, vont être formés par le rock'n'roll. Et ceux qui sont nés 42, 43 ou 45 comme lui, ça va, ils vont plonger dans le blues. Et Wyatt, lui, est resté finalement sur une, presque sur la musique qu'écoutaient ses parents. Son père jouait un peu de piano, aimait le jazz, aimait la musique classique. Il a un oncle qui aimait la musique classique. Donc, il va à la fois être un peu bercé par la musique classique et beaucoup par le jazz. Et finalement, il n'est pas en rupture avec son milieu familial. Tout au contraire, il les admire, il les aime, et il se dit finalement, je les admire, je les aime, mais moi, je suis qu'un nul, qui ne sait rien faire.
Le mot de rupture que j'ai employé est tout à fait mal approprié, parce que c'est un homme qui ne semble jamais en rupture. C'est ça qui est assez frappant, parce qu'on ne sait pas très bien où il est. Il est toujours un peu en apesanteur.
D'abord, c'est quelqu'un d'un abord très ouvert, très, très jovial. Enfin, il a des périodes de dépression qui rend son personnage très complexe, mais dans l'abord, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la sympathie, dans la jovialité. Mmh. Il reçoit très bien. Il aime parler. Il aime boire avec les gens, partager quelque chose. Et en fait, lui n'aurait pas fait de rupture. Par exemple, il n'y a pas de rupture. C'est pas son fait, la rupture avec Soft Machine. Il a été viré de Soft Machine, qu'il a pris à nouveau comme un échec. Je ne suis pas capable de. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est finalement très pacifiste au fond des choses et qui l'a toujours été, et qui préfère fuir. Le suicide, disait, c'était finalement, qui était raté, hein, bien sûr, mais c'était une espèce de fuite. Je ne suis pas capable, donc je vais trouver un monde meilleur ailleurs. Je ne vais pas ennuyer les gens, je ne vais pas les embêter avec ma présence, avec mon inutilité. Je préfère plutôt partir. Il est plutôt sur la fuite ailleurs que sur l'affrontement.
Alors partons vers des eaux maritimes avec lui, Sea Song, Robert Wyatt. Ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'Alfie m'a demandé de faire un disque. J'ai dit, oh, bah d'accord. Elle m'a poussé en quelque sorte. Elle a installé un piano et un magnéto dans ma pièce. Tout vient d'Alfie. Car moi, écouter des disques pourrait me suffire. Mais elle a épousé un musicien et ça fait partie du contrat de mariage. Elle veut donc un vrai mari musicien, et c'est ce que je dois être. Pour ce qui est des chansons, je n'avais pas vraiment d'idée originale. Alors, pour la punir, j'ai utilisé ses propres poèmes et je les ai mis en musique. C'était une façon de l'impliquer, car elle aime rester dans l'ombre et de cette façon, je la mettais un peu en lumière. Robert Wyatt, une interview de 1994. Alors là, c'est très étonnant, Philippe Thiers et Jean-François Drian, ce qu'on entend là, parce que cet homme qui est une sorte d'icône vénérée par énormément de gens, parle au fond de lui, musicien, comme une sorte de... comme s'il était... il avait été passif, alors c'est peut-être de l'humour aussi, hein, comme si, donnant toute sa place d'ailleurs à la femme qui est sa compagne de toute une vie, hein, puisque je crois que ça fait très très longtemps qu'ils sont ensemble.
Oui, depuis le début des années 70. Ouais.
Voilà, donc on dirait que tout ça est arrivé au fond par hasard, parce qu'elle voulait un musicien. Et que...
Oui, c'est pas tout à fait comme ça non plus, ouais. Parce qu'il faut faire attention à ce que dit Wyatt.
Absolument, mais on voit bien là qu'il y a un personnage complexe.
Oui, parce que non seulement il est complexe, et puis il aime bien jouer, il aime bien de temps en temps partir sur une voie, il sent que les gens aimeront bien cette histoire, donc il va le faire. Mais il y a une chose qui est vraie, il le dit, et je pense que c'est vrai, il est feignant aussi. Il est paresseux par moments, il a envie de rien faire, puis il a des périodes dépressives, et puis il y a des moments où tout va bien, où il se sent d'un coup, c'est parti, voilà. C'est pas quelqu'un, il l'explique très bien dans les entrevues, les entretiens, c'est quelqu'un qui attend un peu que ça vienne, ça mature, ça soit au point, et à ce moment-là, il part. Mais il aime bien laisser venir les choses. Et puis, il aime bien aussi se dénigrer un peu. En même temps, Alfreda Binch, donc Alfie, a une importance primordiale parce qu'elle l'accompagne, elle le pousse, elle fait les pochettes de ses albums et puis
les
elle
textes.
Participe aussi à nombre de textes, pas tous, mais nombre de textes. Et en même temps, c'est aussi une fan de jazz. Ils se rencontraient comme ça, puisque finalement, il raconte, c'était une fille qui aimait le jazz et moi, j'étais un peu tout seul à cette époque-là, parce que sa première, donc ses premiers amours musicaux et ce qu'il va essayer de... pas de copier, mais de rentrer dans cet univers, c'est le jazz par la batterie, mais aussi la trompette. Il joue de la trompette, il joue plein de choses. Et ses premiers instrumentistes préférés, ça a été Miles Davis, et puis ça a été des batteurs de jazz, Elvin Jones ou après Tony Williams. D'ailleurs, la rencontre avec Miles Davis ne se passera pas très bien. Mm-hmm. Et quand il l'a rencontré, il joue en première partie, plutôt en deuxième partie, parce qu'on joue en deuxième partie, Miles Davis, c'est pas en première. À New York. Et là, donc, il est dans
Davis
le jazz.
Miles Davis disait que ça permettrait au public de partir après l'avoir entendu.
Voilà. Mais en même temps, pourquoi alors, on va dire, il fait du rock, il va rentrer dans cet univers du psychédélisme et du rock? C'est tout simplement parce qu'il s'aperçoit que pour draguer les filles, comme il disait, ce qu'il aimait faire, en fait, c'était surtout écouter de la musique et éventuellement draguer les filles. Mais pour draguer les filles, il était un peu timide et leur faire écouter des disques de jazz ou leur jouer des solos de jazz, ça les intéressait pas trop. Donc, il reste lancé dans un groupe de rock, d'abord un duo, puis après un groupe sous l'influence de Kevin Ayers, qui a été très important, David Allen, puis après le quatrième sera Mike Radlett, Hugo Père. Il monte même des petits duos qui reprennent des classiques de rock'n'roll. Mm-hmm. Il reprend dans un classique de rock'n'roll, il aime bien ça, il est assez éclectique en fait dans ses choix.
Alors qu'est-ce que c'est Soft Machine? Aujourd'hui, vous regardez ça comment, Philippe Thiers, ce groupe?
Soft Machine, en fait, c'est un peu, comme tous les groupes, c'est un petit peu le hasard des rencontres. Parce que la mère de Robert Wyatt, entre autres, recevait des étudiants. Ils avaient une grande maison et logeaient des étudiants. Et il y a eu David Allen, qui était musicien, poète, tout ça. Donc, ils ont décidé à un moment de monter un groupe. Il y a eu toute une effervescence autour de la ville de Canterbury. Wyatt n'était pas étudiant, il avait abandonné ses études, parce que pareil, quand ça va pas, il va pas se confronter, se battre pour aller au-delà, il va quelquefois partir. En même temps, comme dit Jeff, il est excessif, mais c'est pas contradictoire. Donc il est parti vagabonder, il revient, il a appris à jouer de la batterie, il chante pas au départ. C'est David Allen, Kevin Ayers qui vont chanter, et là ça fait partie d'un ensemble. Il y a eu les Wildflowers, qui est un groupe dont va surgir Caravan également, et dans ce mouvement de Canterbury, il y a des gens qui sont étudiants, d'autres qui ne le sont pas. Ben voilà, le groupe va s'assembler petit à petit autour de Hugo Père, Robert Wyatt, puis Hugo Père va partir un moment. C'est un groupe de rock'n'roll qui joue dans les balles au départ. Et après, Kevin Ayers va amener un univers un peu poétique, un peu différent, parce qu'il compose ses propres chansons. Mm-hmm. Là, il ne s'agit plus de faire des reprises. Et c'est comme ça que naît Soft Machine. Va s'ajoindre à eux un organisme, Mike Radlett, qui est lui étudiant en philosophie, qui a été au bout de ses études de philosophie. Donc, un côté un peu instinctif. Il se définit comme un instinctif, Wyatt, pas comme un intellectuel. Et face à lui, un vrai intellectuel. Et l'opposition va être très forte toute la durée du groupe. Et Soft Machine va se lancer comme un groupe psychédélique. Ça va être le groupe psychédélique londonien à un moment avec Pink Floyd, dans le cadre des nuits de l'UFO et tout ça. Et petit à petit, Wyatt va essayer, entre autres, Hugo Père, après, quand il va rentrer dans Soft Machine, l'orienter vers un climat un peu plus jazz et qui va donner ce troisième disque de Soft Machine, qui est le disque fondateur pratiquement de la fusion jazz-rock.
Le chat qui pêche. De la ruche. his saxophone.
Old Europe, donc Robert Wyatt, un disque qui s'appelle Cuckooland, qui est de 2003, Raikou.
Oui, un excellent disque, parmi ses derniers disques, c'est vraiment le meilleur, je pense. Et là, on retrouve à la fois ses amours, finalement, le jazz. Il parle de Miles Davis, Juliette Gréco. Ça rassemble à la fois son amour de la France, où il a fait plusieurs séjours. Mm-hmm. Il aime aussi le cinéma français, la Nouvelle Vague, il adore ça. Il a toute une vidéothèque, on peut dire, de films français. Et Miles Davis, qui est quand même sa référence, même si Jeff rappelait qu'il s'intéressait à Lee Morgan et à plein d'autres musiciens. Pas mal les batteurs et les trompettistes. Il joue lui-même de la trompette. Il joue deux, trois autres instruments. Et voilà, donc c'est son univers, finalement, l'univers auquel il fait référence, son univers un peu rêvé, c'est le Paris des années 50 avec Juliette Gréco et Miles Davis.
On avait enclenché le chapitre Soft Machine, donc est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur l'idée du rock psychédélique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est à ce moment-là ?
67, il commence à créer Soft Machine, même un petit peu avant, mais disons ça prend forme vraiment en 67, il va enregistrer après 68 et puis en 69. Et le rock psychédélique, il vient de San Francisco, c'est né parce que des musiciens ont essayé les acid tests, c'est-à-dire sont mis à prendre des drogues hallucinogènes, et ça a transformé complètement la vision de la vie, bien sûr, mais la vision de leur musique et l'intensité et la durée des morceaux. Avant, il y avait des morceaux très standards, 3-4 minutes, on va dire, et là, d'un coup, ça fait exploser les barrières musicales, parce qu'on va prendre d'autres instruments, avoir des influences, mélanger les influences de plusieurs, du blues, avec la musique orientale, le jazz, la musique concrète, tout va se mélanger un petit peu, et surtout, on va pouvoir faire ce qu'on veut, c'est de la liberté totale, avec des sons qui peuvent être assez étranges. Et Soft Machine, petit à petit, va devenir un des groupes phares, comme je disais, de l'UFO. L'UFO, c'était un endroit, la Roundhouse, une organisation qui organisait des grandes nuits. C'était plus que des concerts, des grandes nuits psychédéliques avec des thèmes. Et ils ont fait une série de concerts. Il n'y a pas eu tant que ça. Ça a duré un an et demi. Il n'y avait pas des concerts tous les soirs. Mais c'était la vraie folie, quoi. Le public était dans le même état que les musiciens. Et deux groupes vont sortir de ces nuits. Plusieurs, Tomorrow, Arthur Brown, mais surtout Pink Floyd et Soft Machine. Et c'est ça qui va faire la reconnaissance, la gloire de Soft Machine, qui bizarrement pourtant ne va pas sortir son premier album en Angleterre, mais aux États-Unis à la fin d'une tournée avec Jimi Hendrix. Et l'album va être édité donc aux États-Unis et en France. Parce qu'en France, ils commençaient à être populaires, ils commençaient à tourner. Mmh. Ils ont même participé à des fêtes, des happenings surréalistes et psychédéliques à Saint-Tropez. Ils ont adapté une pièce le désir attrapé par la queue. Je crois que c'est une pièce de Picasso.
Oui.
Voilà, ils ont fait la musique, ils ont été invités à faire la musique. Donc, on mélangeait tous les styles, tous les arts, tout se mélangeait. Et Soft Machine était très à l'aise là-dedans, même si Robert Wyatt dit qu'il avait un peu de mal, qu'il fallait qu'il boive pour monter sur scène, qu'il était un peu trop exposé. Mais en même temps, je pense que cette folie lui convenait, au moins à cette époque-là.
Porque
À l'époque, je me considérais comme un batteur. Mais j'essayais aussi de faire tout ce dont j'étais capable. Avec le recul, je ne pense pas que j'en étais capable. Quand j'écoute certains des concerts où je joue ces deux rôles, batteur et chanteur, j'entends toujours lequel prend le dessus sur l'autre. En définitive, je pense que la différence réside dans le fait que le chanteur, c'est vraiment moi. Alors que le batteur tentait plutôt de se situer dans une tradition de batteur. En tant que batteur, j'essayais de faire mieux que Tony Williams, Billy Higgins, Max Roach ou Elvin Jones, tous mes batteurs préférés. Par contre, bien que j'ai beaucoup de chanteurs préférés, il n'y en avait aucun qui était un modèle pour moi. Au début, j'en ai imité certains, mais je n'ai jamais entendu aucune voix qui ressemblait à celle que je voulais avoir. Il était donc normal que je développe ce côté-là. Mais je n'en ai eu l'occasion véritablement qu'après mon accident. Je ne pouvais plus être batteur. J'ai donc été obligé de me concentrer sur un monde plus réduit, sur ce que je pouvais faire, les instruments à clavier et le chant. Alors, Philippe Thiers, on a entendu successivement « Dada Was Here », donc un extrait de « Soft Machine »,« Soft Machine 2 », 1969. Et puis, oui. Robert Wyatt parlait de lui comme une sorte d'homme coupé en deux, hein, c'est-à-dire d'abord l'homme batteur, mais finalement dans lequel il ne se sent pas lui-même, et l'homme chanteur, l'homme voix, qui va être pour lui ce qui incarne véritablement Robert Wyatt.
Oui, c'est un petit peu plus même complexe que ça encore, parce qu'il dit que comme batteur, il aime beaucoup jouer de la batterie. Il disait que c'était un exercice physique, alors que chanter est plus un exercice mental. Car il faut se souvenir des paroles, déjà enregistrer les paroles, il y a un effort mental. Alors qu'il aime le côté physique de la batterie. Mm-hmm. D'ailleurs, il joue toujours un peu de batterie sur des mini-batteries, comme mm-hmm. un peu, puisqu'on sait qu'il est paralysé des jambes depuis sa chute de juin 73.
Oui.
Et de l'autre côté, il a expliqué qu'il a des modèles quand même en batterie. C'est-à-dire qu'il parle d'Elvin Jones, qui est son modèle suprême, qui a joué avec Coltrane, Tony Williams, ou d'autres batteurs qu'il va admirer, des batteurs plus classiques, qu'on joue avec Dizzy Gillespie, ou des batteur Bob, alors que pour le chant, il explique qu'il n'a finalement pas de modèle, il part un petit peu dans l'inconnu, il ne pensait pas du tout devenir chanteur, il n'apprend pas à chanter, il trouve qu'il a une voix assez singulière qui ne correspond pas vraiment au modèle établi. Donc, il va jouer finalement de cette singularité, parce que pourquoi il chante ? Ben, tout simplement parce que Kevin Ayers et David Allen sont partis du groupe et qu'ils se retrouvent à trois, Hugo Perm, Grant Ledge et lui, et qu'il n'y a pas de chanteur. Comme ça arrive souvent d'ailleurs dans certains groupes, où un des instrumentistes va prendre le chant alors qu'il n'est pas prévu au départ.
Mais on a l'impression tout de même qu'il y a deux, enfin il me semble, deux univers très différents. D'abord, il y a cette fracture dans sa vie, hein, quand même.
Oui, mais ça, par contre, c'est une fracture importante.
Donc, une fracture où il se défenestre et il devient donc handicapé.
Enfin, il ne se défenestre pas lui-même. Non, il était lui-même, complètement sous et, ouais, et il tombe, a une idée farfelue de passer par la fenêtre au cinquième étage et ça n'a pas marché.
Ouais. Donc, il se retrouve paralysé et je trouve que, là, je me tourne vers Jean-François Dréan, qui est photographe, donc qui a un rapport au regard intensif. Puis vous avez photographié Robert Wyatt, on va parler de ce que ces photos nous racontent de cet homme. On a l'impression qu'il y a aussi deux hommes, parce que le Wyatt à la batterie a une espèce d'agitation, de violence. Quand on regarde les films de l'époque, hein, il est vraiment le batteur. Il est en plus
très énervé.
Il est enfoui les cheveux, on ne le voit pas. Enfin, bon. Et puis il y a ce Wyatt, alors évidemment plus d'aujourd'hui, mais même après, avec un côté beaucoup plus la barbe, beaucoup plus rond, beaucoup plus alandi.
Beaucoup plus Père Noël.
Oui, oui.
Je ne sais pas si dans les photos, on voit l'énergie qui se dégage de lui, mais quand il parle de lui, Robert, il dit qu'il était sportif quand il était jeune, qu'il était vachement physique. Quand il jouait torse nu tout le temps. Donc il a besoin de se défouler. Et même là, quand il pousse sa chaise roulante, lui-même, il veut que personne ne l'aide et tout ça. Il dit qu'il a beaucoup de force dans les bras et qu'il est capable de passer partout avec sa chaise roulante. C'est une force de la nature quand même. Tout en étant bloqué sur sa chaise, là, ça reste... quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie. On sent quand même que c'est quelqu'un avec une grande puissance quoi, derrière tout ça. Puissance de travail, même s'il est feignant. Quand il va enregistrer à Londres, il se fait porter dans le studio et il y reste pendant 3 jours, jour et nuit, sans s'arrêter. Il y a un côté gentil et doux et un côté excessif qui affleure. C'est lui-même qui parle de son rapport à l'alcool, de son rapport à la drogue. Il dit, moi, c'est tout ou rien, il ne peut pas s'arrêter. Il a ce côté-là assez consent quand il parle.
Le handicap qui est devenu le sien a beaucoup joué dans sa carrière quand même, parce que ce n'était pas évident en 73. Je ne sais pas si ça le serait aujourd'hui, mais en tous les cas, encore moins en 73, d'arriver sur une scène avec un fauteuil roulant.
Ça a beaucoup modifié sa façon de faire, de travailler déjà, puisqu'on peut s'apercevoir. C'est son Rock Bottom dans Entendu Six Songs et son deuxième disque. Il suffit d'écouter son premier, The End of an Era, qui est complètement free, qui est parti dans une espèce de jazz rock.
Une fois quitté Soft Machine.
Une fois qu'il a été viré même de Soft Machine, parce qu'il n'a pas eu tout quitté. Et ça l'a déjà vraiment un peu cassé. Il l'explique très bien. Et pendant longtemps, il ne parlait pas de Soft Machine. Et il y a quelque chose qui lui est resté sur le cœur, même encore maintenant. Parce que c'est quand même un des fondateurs de Soft Machine, viré de son propre groupe. Alors qu'il a ce problème toujours, il en joue un petit peu aussi dans les interviews, mais il a toujours ce problème de se dire, ben finalement j'ai été viré parce que je suis incapable. Le problème qu'il retrouvait à l'école quelque part, j'y arriverai pas parce que je suis pas capable. Et on voit aussi qu'il joue avec Matching Moll. D'ailleurs, il y a des superbes morceaux avec Matching Moll, comme au Caroline. Et il commence en fait à écrire Rock Bottom un peu avant, et je pense que il est bloqué sur un lit d'hôpital pendant de longs mois et ça change sa vision de la musique, sa vision de l'écriture, sa vision de ce qu'il peut faire. Et là, malgré tout, bah, il va devoir quand même faire l'effort finalement intellectuel de repenser toute sa musique et ça va donner Rock Bottom et puis après...
Alors comment vous qualifieriez-vous ce nouvel univers ?
Je pense que l'idée qu'il avait à cette époque, même à la fin de Matching Moll, c'était de refaire un groupe, de reformer un groupe. Il est né quand même dans l'idée du groupe et non pas...
Du soliste, du solitaire,
même s'il fait les choses de manière solitaire, bon, parce qu'il est organisé chez lui pour le faire, parce que je pense aussi le fait qu'il soit en fauteuil roulant l'empêche un peu de beaucoup réfréner ses envies de se montrer en public, de jouer en public. Il a toujours eu peur de jouer en public, puis là il a encore plus peur de décevoir les gens, et puis finalement ils se disent les gens vont pas payer pour voir quelqu'un paralysé, et ce qui est pas vrai d'ailleurs, mais bon. Il intègre un peu ça, mais après, il va dans les studios, une fois qu'il a fait ses maquettes, et il va faire jouer sa musique par lui-même et par d'autres musiciens. Mais ils ne jouent pas ensemble. Contrairement à ce qui se serait passé avant, où le groupe s'était vraiment formé un ensemble, il prend les gens individuellement, reste un peu caché et rajoute ses parties à lui derrière. Et ça, c'est un peu étonnant comme démarche pour quelqu'un finalement qui a été formé au collectif et qui a une vision collective des choses.
Alors, on va écouter « I am a Believer ». Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, Philippe Thien ?
I'm a Believer, en fait, c'est un morceau popularisé par les Monkees, un morceau de Neil Diamond. Et Robert Wyatt le reprend après Rock Bottom. C'est sorti en single, en 45 tours. Voilà, il a fait surtout dans ces années 75-85, il a peu produit et il a sorti pas mal de 45 tours. Et Stupeur, c'est un succès. Ça rentre dans le top 30 anglais, c'est-à-dire déjà un gros succès. Donc, comme tous les succès, il doit passer à l'émission Top of the Pops. Et à ce moment-là, les réalisateurs s'aperçoivent qu'il est sur chaise roulante. Alors, au départ, ils ne sont pas chauds du tout, ils ne veulent pas. Et puis finalement, et on verra bien, on peut arriver à voir sur Internet des extraits de l'émission. On voit bien qu'ils essayent quand même de le filmer le moins possible sur son fauteuil roulant. Mais c'est la première fois, donc c'était en 75, je crois, le passage à Top of the Pops.
Qui était l'émission phare. Hein.
Qui était l'émission phare. Et puis c'est vraiment l'émission populaire. Quoi. C'est la musique populaire, c'est le haut du hit parade. On aurait vu Sheila à la même époque en France, ou Mireille Mathieu. Et là, c'est Robert Wyatt qui passe quand même à Top of the Pops. Tous les grands groupes y sont passés. Et là, il dit que c'est quand même la première fois où il reçoit comme un handicap le fait d'être dans son fauteuil roulant sous le regard des autres. Et que le regard des autres, d'un coup, il n'est plus du même parce qu'il a un handicap. Et c'est là où il sent qu'il a un handicap et que ça va changer, comme il dit, ça va changer ma vision du show business. Et j'ai compris que je ne serai jamais une star du show business.
Robert Wyatt, donc I Am a Believer, donc cet extrait d'une compilation qui s'appelle Going Back Beat, A Little History of Robert Wyatt, Virgin 1994. Alors, on est donc face à cet homme seul, qui va créer seul, et que vous avez photographié, Jean-François Dréan. Et ces photographies, elles sont aussi intéressantes par rapport à lui, hein, son visage, ses mains que vous prenez beaucoup, mais aussi cette espèce d'univers, parce qu'il vit dans une petite ville avec son épouse, donc, et on a l'impression qu'ils ont reconstruit un monde plein de bric-à-brac, plein d'objets avec lesquels il joue. C'est véritablement un univers où le monde vient à lui, mais où ils ont l'air tous les deux là.
Ben, on ne savait pas où on allait quand on est parti. On ne savait pas dans quel monde il vivait, comment était sa maison.
Moi, j'étais déjà allé, une première interview avant.
En fait, on rentre dans sa maison et de plein pied, il y a ce bureau qui est un bureau, un studio d'enregistrement, une pièce où il passe toutes ses journées, où il a une théière et des instruments de toutes sortes dans tous les coins. Et avec son fauteuil, il se tourne entre son piano, sa table de mixage, sa table où il écrit, sa machine à écrire. Tout est là-dedans, quoi. Donc, en fait, on a passé pratiquement la semaine dans cette pièce. On est allé un petit peu dans le jardin et puis on sortait manger en ville, on allait se balader dans l'Arse avec lui, mais autrement, dans sa maison, on était dans cette pièce qui est sa pièce de vie essentielle, en fait. Et donc, c'est sûr que, bah, du coup, toutes les photos que j'ai faites, elles étaient là, ou pratiquement, quoi. Il y a 80% des photos qui sont faites dans cette pièce, avec ces petits objets, ces petites choses. Et puis, eh ben, moi, je tournais autour d'eux, ils se parlaient, on parlait tous les trois.
Et qu'est-ce qui vous a frappé, vous, votre œil de photographe, votre regard? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
Bah, c'était clair, déjà. C'était très clair. C'est-à-dire que la pièce, elle est exposée sud. Donc, il a fait très beau pendant toute cette semaine. Donc, il y avait le soleil qui rentrait partout, au point que ça me gênait presque. Il y avait des contrastes presque trop forts à certains moments. Et puis, le sol était blanc. Et c'était vachement clair, quoi. C'est une pièce assez joyeuse parce que, justement, c'est tout mélangé. Il y a cette espèce de vélo... en fer forgé accroché au mur, des trucs improbables. Quoi.
C'est pour ça que je dis bric-à-brac, parce qu'on le ressent ça sur les photos. Hein.
C'est du bric-à-brac, il y a des trucs drôles, comme cette affiche de Fidel Castro avec son cigare et avec marqué « Fumer fait du bien » ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs...
ça soigne le stress.
Voilà, sur une porte...
Ce qui est vrai d'ailleurs, je crois, médicalement.
Bon, peut-être, alors ça... Lui, il fume plus, hein. C'est fini. Il y a une petite affiche aussi, interdit au fauteuil roulant, un truc comme ça sur une porte. Enfin, tous les petits trucs qu'il a récoltés, que des amis lui ont donné et tout. Et c'est comme il est, quoi. Drôle, avec de l'humour, et puis accueillant, quoi. Donc on était bien, quoi, dans cette pièce. Hein. Ça se passait bien. Oui, le thé n'était pas mauvais. Et... voilà.
On a toujours l'impression que Wyatt, c'est un univers complexe, un peu noir, un peu sombre, un peu fermé. On s'attend à voir quelqu'un un peu soit prostré, soit vraiment ruminant les choses, et pas du tout. D'abord, c'est quelqu'un qui aime parler, ça. Il aime discuter, il aime se montrer, il a un côté un peu comédien aussi. Et puis surtout, comme le dit Jeff, c'est vraiment, c'est clair, quoi. C'est bon. Alors, on sait qu'il a des moments de dépression, mais en même temps, dans son état normal, disons, il est très accueillant, et ça se reflète dans la pièce, dans les objets. Il aime bien les petites bricoles qui rappellent deux, trois choses, des choses bizarres, hétéroclites, mais qui ont toujours un rapport avec quelque chose qu'il a vécu ou quelque chose qui l'intéresse. Mmh. Et c'est pas tout à fait par hasard que c'est là. Et de la même manière, il a des tas de petits instruments bricolés qu'il a récupérés à droite, à gauche.
Pour faire de la musique.
Pour faire de la musique ou pour les regarder, parce qu'il y en a certains qui marchent plus ou moins bien. Mais d'ailleurs, Jeff a pris énormément de photos avec un espèce de vieux bugle, et tout à fait étonnant. C'est plus pour la structure métallique que vraiment pour en jouer, parce que je crois qu'il ne marche plus en réalité. Il a essayé. Et puis, par contre, il va avoir des petits instruments en plastique, comme des instruments d'enfant. Et là, il va pouvoir en jouer.
D'ailleurs, il a travaillé avec Pascal Comlade, si je ne m'abuse.
Oui,
qui a beaucoup travaillé sur les jouets, la musique et les jouets d'enfants. Voilà. Il y a tout un univers.
Sauf que quand il travaille, Wyatt souvent travaille chez lui et envoie le son après. C'est très rare qu'il aille, ça arrive, hein, qu'il se déplace et qu'il aille jouer chez les gens ou qu'il vienne chez lui, mais c'est extrêmement rare.
Parce qu'il travaille avec beaucoup de monde, en général, il envoie plutôt à distance. Hein, il y a plein de gens qui le sollicitent.
Ben, énormément de gens, comme il dit, il répond à 1 sur 10 ou 1 sur 20, parce qu'il ne peut pas tout répondre. Et puis, quand il répond, il l'explique très bien. Il ne faut pas non plus que ça le prenne que totalement, parce que il a besoin de se concentrer sur ce qu'il fait. Quand il est sur quelque chose, ça peut lui prendre quelquefois des mois pour concevoir un prochain disque. Mais il ne veut pas se laisser perturber par des projets extérieurs où il s'investirait trop. Il faut quand même qu'il y ait une certaine facilité pour lui pour s'investir dans le projet. Sinon, il dit qu'il le refuse.
Alors, on va l'écouter là, dans un titre qui est « At last I'm free ». Donc, à la fin, je suis libre. Hein. Et on se dit un peu, en pensant à Lumi, en l'écoutant, en lisant ce que vous avez écrit, Philippe Thiers, en regardant les photos, que c'est peut-être bien ça qu'il pourrait dire.
Oui, en plus, ce n'est pas un titre de lui, c'est un titre de Chic, qui est vraiment tout à fait différent comme style de musique.
Rien à voir.
Mais Wyatt a aussi la faculté de vampiriser les titres qu'il reprend.
I can hardly see in front of me. Thank you. front of me, I can hardly see in front of me.
Il est plus facile de chanter quand on se sent à l'aise avec les paroles ou avec le son qu'on produit. Je pense que beaucoup de mots n'existent pas encore, mais je n'ai pas envie de les attendre. J'ai eu envie de faire un dictionnaire de ces mots avec leur définition. Comme ça, j'aurais pu être le premier à les inventer. Rock bottom, folly belowly. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais que ça dit la vérité. Ça, oui, je le sais. Il s'est passé d'autres choses aussi. J'utilisais des mots sans savoir ce qu'ils voulaient dire. Par exemple, Bojangles ou Bojangles. Et puis j'ai découvert que Bojangles était le nom d'un des premiers grands danseurs de claquettes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Robert Wyatt, là, qui nous expliquait son rapport aux mots. Alors là encore, je disais qu'on était toujours entre deux eaux avec lui, c'est-à-dire qu'à la fois, il dit qu'il emploie des mots dont il ne connaît pas le sens, en même temps, c'est eux qui disent la vérité. Philippe Thiers, bon, il aime le paradoxe, ça l'amuse beaucoup.
Il adore le paradoxe, tout ce genre de discours, il aime ça. Il a un gros travail sur les mots, on le verra d'ailleurs dans le dernier morceau, parce qu'il dit qu'il aimerait faire un dictionnaire des mots qui n'existent pas encore. Mais il rapporte aussi qu'il ne faut pas utiliser les mots n'importe comment. Rien que d'utiliser la grammaire, ça a un sens, ça a même un sens politique. On trouve tout un peu dans les mots. C'est aussi un grand admirateur des mots, d'autant plus qu'il n'écrit pas la plupart de ses une grande partie de ses textes, puisque c'est Alfreda Binch qui écrit ses textes, qui a fait aussi des livres pour enfants, qui a écrit des poèmes. Il y a un côté artisanal également dans le travail de Wyatt. Il faut rappeler à chaque fois, quand on va chez lui, c'est évident que tous ces petits instruments, ça rappelle un artisan qui prendrait une chose avec une autre et qui les mélange lui-même, qui regarde un peu ce que ça fait, qui écoute ce que ça donne. Et là, ça va pas. Et puis on refait, c'est à l'expérience, c'est le côté expérimental par l'expérimentation de la musique et des sons. Et par rapport à ça, il y a les mots qui sont là. Alors soit ils sont là avant, il y a un poème qui lui plaît d'Alfreda Binch, et donc il va le mettre en musique. Il va changer quelques mots, elle dit par moment. Sur Old Europe, elle n'a pas voulu qu'il change des mots, mais je crois qu'en général, il y a cet accord comme ça, il change quelques mots parce que ça va coller mieux avec sa voix, parce qu'il y a le rapport, le timbre de voix. D'ailleurs, il a perdu un petit peu, il peut un peu moins monter dans les aigus qu'avant. À un moment, on fume, on boit, donc la voix se perd un petit peu. Et il explique bien ça. Puis d'autres moments, c'est la musique qui est là, et elle va, ou lui, il va mettre des mots, et il va, si c'est pas lui qui les met, quelquefois il va les transformer et les faire coller à la musique. Mais il y a toujours ce rapport où il faut imbriquer les mots, il faut jouer avec eux, et où le dictionnaire est quelque chose d'important, finalement.
Mais
de
le,
très
mot,
important.
Le mot, c'est le sens aussi. Alors le sens, avec lui, c'est toujours aussi très étrange, parce que le mot, ça peut être aussi l'engagement. Et par exemple, c'est quelqu'un qui a été vécu comme très engagé, qui lui-même dit l'avoir été, membre du Parti communiste, à un moment où les gens partaient plutôt du Parti communiste qu'ils n'y entraient.
C'est pour ça qu'il y a été.
Voilà, et il dit que c'est pour ça qu'il y a été, parce qu'au fond, il était sûr qu'ils avaient perdu. Donc là, on est encore dans quelque chose d'étrange comme posture.
C'est un peu le refus de la conformité au monde aussi, parce que une fois que des membres du Parti communiste, surtout là où il est, sont alliés un peu avec le Parti socialiste anglais, qui est très peu socialiste, bon, ben, il a déchiré sa carte. Par contre, il a des idées, au-delà de cette apparence, justement, de non-conformité, il a des idées qui restent. Par exemple, les rapports entre Israël et la Palestine, c'est quelque chose qui le tient à cœur, comme les rapports avec l'Afrique, les rapports avec le tiers-monde, tout ça. D'ailleurs, les mots ont un sens aussi, puisqu'il a repris des chansons, énormément de chansons militantes, engagées. Mm-hmm. Il a repris Te Recuerdo Amanda, par exemple, du poète Victor Jara, ou Rara, comme on dit, qui est mort dans un stade chilien, après avoir eu les mains coupées, parce qu'il écrivait, justement, les mots des chansons. Et donc, Wyatt, il a repris Biko aussi, il a repris plein de chansons très engagées, plus qu'il n'en a écrit, qui, les siennes sont quelquefois directement engagées, d'autres fois sont plus sur la rêverie. Mais ce qu'il reprend, ça a toujours un sens, à part deux ou trois, ça a toujours un sens politique très fort. Et donc les mots ont un sens politique aussi, mais pas seulement. Il n'y a pas de séparation en fait finalement, puisque la chanson, ça reste de la chanson, et en même temps... Le sens est là. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire « je fais de la politique parce que je fais des chansons ». Non, je fais des chansons et à travers mes chansons, transpire une position, transparaît une position. Et c'est pas du tout « je veux faire de la propagande ». Il pense pas qu'il y aura une propagande là-dessus.
Mais de toute façon, il a l'air un peu dans l'espoir. Il a pas l'air de croire qu'il puisse passer beaucoup de choses qui changent le monde en même temps. C'est-à-dire qu'il...
Il n'est pas si désespéré que ça.
Je ne sais pas, moi, à le lire, je ne trouvais pas que...
Ah, personne n'est vraiment optimiste.
Jean-François Dréan, vous vouliez dire quelque chose.
Non, je voulais dire qu'il nous avait parlé de son engagement politique qui était, semble-t-il, venu aussi par le jazz avec la lutte des Noirs et la lutte contre le racisme. Et puis après, il a été très engagé après... pour la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, à la suite de la rencontre avec Mongezi Feza, le trompettiste de Rock Bottom. Mm-hmm. Et en fait, c'est venu aussi par la musique, pas uniquement par les mots. Quoi. La musique elle-même avait un sens politique dans ce qu'il aimait. Quoi. Le jazz, c'était la lutte des Noirs.
Le rapport aux musiciens aussi.
Le rapport aux musiciens.
Alors, on va écouter, pour conclure cet entretien autour de Robert Wyatt, un morceau qui s'appelle The Verb. Peut-être vous pouvez nous en parler plus en détail, Philippe Thiers.
Oui, c'est sorti sur une compilation que m'a donnée Robert Wyatt quand on y était, en fait, qui s'appelle Solar Flares Burn For You, qui est le titre d'un film expérimental sorti 30 ans avant, ou pas sorti quasiment, parce que personne ne connaissait vraiment, pour lequel il a écrit quelques morceaux. Et sur ce disque, il y a aussi des versions de travail, on va dire, de certains morceaux qu'on retrouve dans Rock Bottom. Et là, c'est un enregistrement de 2003, où il est seul chez lui, c'est à la voix, et où il explique ce que c'est finalement que le verbe, donc la grammaire, la syntaxe. Et pour finir par dire, bon ben voilà, la syntaxe, il y a des côtés plus de droite, là c'est plus anarchiste. Voilà, le sens des mots.
C'est-à-dire, on retrouve l'idée du politique.
On retrouve l'idée du politique et en même temps, dans l'idée de la grammaire elle-même, comment il faut transformer la grammaire, l'apprendre, et tout ça avec une voix qui va au plus profond. Là, on est vraiment sur un rapport... À mon avis, quiconque écoute ça en ouvrant ses oreilles ne peut être qu'extrêmement bouleversé par ce court morceau qui fait à peu près 3 minutes, où il explique à la fois quelque chose, il explique le rapport aux mots, le rapport aux verbes, et en même temps, il fait passer une émotion d'une intensité rarement égalée sur n'importe quel disque.
Bon, on va se laisser aller, alors, en écoutant The Verb, Robert Wyatt.
How can we get through to people in a sentence loud and clear, words that spur them on to action? What's the good book got to say? Here's a list of 10 commandments. Plain old orders win the day. Something we can carry with us to blow those clouds of doubt away, away. First we got to clean them up a bit. We live in faster times. Brush down all those dusty phrases. Thou shalt not kill comes to mind. Words like thou just sound old-fashioned. Do we need them? I think not. and the same goes for the next one. I mean, who the hell would still say shalt? So now, shot of these anachronisms, time's still pressing, running out. We're only halfway there and yet we stumble, tripping over that word not. Not ain't helpful, not right now. We do not want these negatives. Words like not could shake your faith when he who hesitates is lost in love. Now we have it stripped right down. We really only need a verb, a doing word we tell our children. Kills the one that hits the nerve. So thank you God for showing us the way to clarify your thought. Now we have it in a nutshell. Kill to win your full support. We don't even need that grammar hardwired in our Chomsky heads. The grammar's just for anarchists and all you need's a verb. All you need's a verb. All you need's a verb.
The Verb, Robert Wyatt, donc Sola, extrait de Solar Flares Burn For You, un disque de 2003 chez Cuneiforme. Philippe Thiel.
Oui, il ne faut pas oublier une dimension qu'on retrouve ici, même si le morceau est très émouvant, c'est vraiment l'humour. Là, quand il répète qu'à la fin, que la grammaire, c'est pour les anarchistes et que Dieu nous a donné quand même la possibilité de s'exprimer par les mots, voilà, à tout moment, il est plein d'humour, plein de distance et beaucoup d'ironie aussi.
Alors, que diriez-vous à nos auditeurs, les incontournables comme disque à avoir ?
Il n'en a pas fait tant que ça, donc vous pouvez tout écouter, en fait.
C'est pas une réponse.
Je trouve que si, quelque part, à part peut-être...
L'amoureux fou, mais pas
non,
de...
Non, c'est un peu lucide. C'est vrai qu'il y a plusieurs périodes. Je pense que la compilation des 45 tours, c'est indispensable parce que c'est une autre facette du personnage. Des disques comme Don Destan, qu'il a réalisé tout seul, sont vraiment remarquables, même s'ils sont moins connus. Bon,
Rock Bottom, bien sûr.
Rock Bottom, c'est très bien. Coquelin, Rock Bottom, c'est la base un peu. On veut dire, il faut écouter Rock Bottom, c'est un univers, ça crée un univers très particulier qui a fait la légende de Robert Wyatt, c'est Rock Bottom. Mais Coquelin est un excellent disque. Voilà, il y a plein de très très bons disques. Peut-être Comic Opera est peut-être un petit peu moins bien, le dernier en date. Ouais. Enfin, le dernier en date est en fait avec un trio. Et c'est plus un disque de groupe auquel il participe que réellement un disque qu'il a conçu du début jusqu'à la fin seul. C'est un petit peu en marge, ce dernier disque.
Voilà, alors une fois que vous êtes procuré ces disques de Robert Wyatt, une fois que vous êtes procuré donc ces disques de Robert Wyatt, eh bien vous prenez le livre de Jean-François Dréan, photographe, et Philippe Thiers, auteur, qui s'appelle Robert Wyatt, édition des accords. C'est pas une biographie, c'est plutôt thématique, c'est lui qui parle, c'est un entretien,
c'est le fruit de ces... C'est un portrait sur un moment, avec des photos qui ont été prises au moment de l'interview, dans l'instant, pour montrer un peu comment, à la fois, comment est Robert Wyatt et comment fonctionne un musicien chez lui, comment il travaille, comment il s'organise et quel type de travail il fait, quelle est son originalité à travers ce travail.
Merci à vous deux. Nous sera-t-il possible pour notre coda de rester dans un univers aussi singulier que celui de Robert Wyatt ? Eh bien, il me semble que oui, si nous allons jeter une oreille du côté de la pop électro-baroque d'Olivier Leroy. Pianiste de formation, Olivier Leroy est également chanteur et compositeur, formé aussi à la musicologie et à la musique indienne classique, ce qui l'a conduit d'ailleurs à explorer par ailleurs les musiques populaires indiennes avec de Bollywood et l'indie rock avec Oli and the Bollywood Orchestra en 2004. Ensuite, il s'est attelé à faire aboutir un projet qu'il portait depuis de très longues années dans sa tête et sans doute dans son gosier, une étrange prolifération sonore autour de la voix de tête, chère à Robert Wyatt, ce falsetto de légende qu'il voulait mêler à sa façon avec grand orchestre et effluve de sons électroniques. Ainsi fut fait, donc, grâce à l'enthousiasme du Festival des Vieilles Charrues et à la rencontre avec le compositeur Jean-Philippe Good, qui a écrit les arrangements du projet et qui l'a accompagné sur scène avec les 35 musiciens de l'Orchestre de Bretagne. Alors aujourd'hui, on peut retrouver au disque une formation réduite, le trio Contreo, Olivier Leroy pour la voix, Ludovic Ménil pour la guitare acoustique et Erwan Ragen pour le piano. Et ce disque est une aventure qui nous fait plonger dans un univers étonnant où évidemment on ne manque pas de penser à Klaus Nomi ou à sentir quelques pulsations rythmiques qui font de l'œil à Purcell. Et puis il y a donc cette voix d'Olivier Leroy qui s'approprie l'anglais de Robert Wyatt pour en faire sa propre langue. Une langue qui s'étire, se plie, se déplie dans le chant avec la douceur ambiguë d'un long fil de barbe à papa. Le disque s'appelle Contreo, c'est le nom du trio. Il est sur le label Caravane, c'est le label créé par Olivier Leroy lui-même. Olivier Leroy dit aimer dans la musique indienne son appel et son lien étroit avec la spiritualité, et c'est ce qu'il nous dit lui-même rechercher avec le titre que nous allons écouter. Un titre dont je m'emparerai à mon tour pour vous dire avec lui « Oh, I wish, j'espère que nous vous retrouverons ici même la semaine prochaine. » C'était les Vendredis de la musique, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, attachée de production Sylvia Favre. Le mixage était aujourd'hui de Bernard Laniel et la réalisation et ses sortilèges d'Olivier Guérin.